bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 6 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia. Tout d'abord, les titres. Au Mali, l'ex-rébellion Touareg accuse l'armée de la provoquer par le survol de ses avions. En Guinée, plus de 1,5 tonne de cocaïne saisie par la marine au Tchad. De 380 rebelles graciés ont été remis en liberté mercredi, a annoncé le ministre de la Justice. En Éthiopie, un exécutif intérimaire formé pour diriger la région du Tigré dans le cadre du processus de paix. Israël critiqué après des violences dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Rare rencontre à Pékin entre les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères. Taïwan détecte 3 navires de guerre et un hélicoptère chinois près de l'île après la rencontre Sy-McCarthy en Californie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'ex-rébellion Touareg du nord du Mali a dénoncé mercredi comme une provocation le survol de la ville stratégique de Kidal sous son contrôle et de ses environs, vol effectué selon elle par des avions de l'armée nationale Mohamed Oumfa.
La CMA, Coordination des mouvements de l'Azawad, principale alliance d'anciens rebelles dans le nord, a accusé des avions de chasse de l'armée malienne d'avoir survolé à des altitudes délibérément provocatrices ses positions à Ber, Amassine, Anafis et Kidal en pleine période de tension liée au blocage du processus de paix. Les autorités maliennes n'avaient pas réagi mercredi à ces propos. La MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, s'est dite mercredi soir préoccupée par la montée des tensions entre les parties signataires de l'accord de paix de 2015. Elle a assuré avoir initié des démarches pour relancer le processus de mise en œuvre du dit accord et a appelé les différentes parties à la plus grande retenue et à leur coopération. Ce haussement de ton de la CMA a eu lieu à la veille d'une date symbolique, l'anniversaire de la proclamation unilatérale de l'indépendance par un des principaux groupes Touareg le 6 avril 2012. Cette proclamation faisait suite au soulèvement des indépendantistes rejoints par les salafistes et à la prise des grandes villes du Nord, dont Kidal. Les indépendantistes ont depuis signé un accord de paix avec le gouvernement malien en 2015, tandis que les groupes djihadistes continuaient le combat contre les État malien et que le pays s'enfonçait dans une profonde crise sécuritaire.
En Guinée, l'armée a annoncé hier dans un communiqué que plus de 1,5 tonne de cocaïne a été saisie dimanche par la marine nationale sur un navire battant pavillon Sierra Leone. Selon le ministère de la Défense nationale, la drogue saisie et l'équipage ont été remis officiellement au procureur du tribunal de première instance de Kaluma Conakry, ajoutant que les enquêtes sont en cours. Longtemps considérée comme une simple zone de transit, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation de drogue selon un rapport de l'ONU publié en 2022. Au Tchad, un groupe de 380 rebelles ont été remis en liberté hier. Ils avaient été graciés récemment d'une condamnation à la prison à vie pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno. Michel Joseph.
Devant les caméras, une trentaine d'anciens détenus ont défilé devant des responsables qui leur ont remis leur certificat de libération au cours d'une cérémonie devant la prison de Klessoum, à une 20 kilomètres de N'Djamena. Selon le ministre de la Justice, Mahamat Amat Alabo, 350 autres anciens détenus ont été élargis. Mahamat Madi Ali, chef du FACT, une coalition rebelle, et 55 autres condamnés, dont certains par contumace, ne sont pas concernés par cette grâce. Le général Mahamat Déby Itno a été nommé président de la transition à la mort de son père Idriss Déby. Il avait promis des élections libres après 18 mois, mais au terme de ce délai, il a été reconduit pour 2 ans de plus à la tête de l'État. en octobre dernier, une manifestation contre son maintien au pouvoir a été réprimée dans le sang. Plus de 600 jeunes ont été arrêtés et détenus dans une prison de haute sécurité à Korotoro, en plein désert. 262 ont été condamnés dans un procès de masse et le 27 mars, 259 d'entre eux ont été graciés.
Au Soudan, l'accord entre civils militaires et paramilitaires censé relancer la transition démocratique après le putsch de 2021 est de nouveau reporté. C'est ce qu'ont annoncé hier soir les civils appelant à des manifestations ce jeudi, jour anniversaire de soulèvement anti-putsch. Le FLC, bloc civil historique des forces de la liberté et du changement, explique le report par une dernière question qui doit être encore finalisée entre militaires, celle des modalités de l'intégration des paramilitaires des FSR, Forces de soutien rapide aux troupes régulières, selon les experts. Il parle de la rivalité entre le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État du 25 octobre 2021, et son second, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des ex-miliciens du Darfour, regroupés au sein des FSR. Un exécutif régional intérimaire de 27 membres a été formé hier pour administrer le Tigré dans le cadre du processus de paix engagé depuis novembre pour mettre fin au conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie, Nani Talani.
La télévision officielle du Tigré, Tigré TV, a publié la liste de cette équipe. En mars, le TPLF a désigné un de ses principaux dirigeants, Getachew Reda, pour présider la région et diriger ce gouvernement intérimaire prévu par l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria en Afrique du Sud. Gebretsion Gebremichael, qui présidait la région, a formellement passé le flambeau lors d'une cérémonie à Mekele, capitale du Tigré. Le numéro 2 du gouvernement régional intérimaire est le général Tadesse Orede, chef des forces du Tigré durant le conflit, qui devient vice-président de la région en charge de la paix et la sécurité. Chef militaire du TPLF, devenu chef d'état-major de l'armée fédérale éthiopienne dans les années 1990 et 2000, le général Tadkan Gebretensa est devenu numéro 3 de l'exécutif. Le TPLF a gouverné de fait l'Éthiopie durant trois décennies avant d'être progressivement marginalisé à l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy Ahmed en 2018.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les condamnations se sont multipliées hier après des violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem où la police israélienne est intervenue pour déloger les fidèles palestiniens en plein mois de Ramadan. Jean-Roger Bion.
Le calme est revenu sur l'esplanade des mosquées où se situe Al-Aqsa, où une foule de musulmans s'est de nouveau réunie hier pour les prières du soir. Dans la nuit de mardi à mercredi, des policiers israéliens sont entrés dans la mosquée, un des lieux saints de l'islam, et ont arrêté plus de 350 personnes qui s'y étaient barricadées, qualifiées d'émeutiers. Piétiner la mosquée Al-Aqsa, c'est notre ligne rouge, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le Hamas a dénoncé un crime sans précédent. Deux nouvelles roquettes ont été tirées hier soir depuis la bande de Gaza vers Israël, après des tirs similaires dans la nuit de mardi à mercredi qui avaient entraîné des frappes de l'État hébreu. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par les violences des forces israéliennes. D'après son porte-parole, Stéphane Dujarric, la Maison-Blanche s'est dite extrêmement préoccupée, appelant toutes les parties à éviter une escalade. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade est aussi le site le plus sacré pour les juifs, qu'il appelle « Mont du Temple » à Jérusalem-Est, occupé et annexé par Israël.
Taïwan a annoncé avoir détecté ce jeudi, ce matin même, trois navires de guerre et un hélicoptère anti-sous-marin près de l'île après la rencontre entre sa présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, en Californie, malgré les menaces répétées de la Chine, Eric Manirakidza.
Je suis optimiste sur le fait que nous continuerons à trouver des moyens pour que les peuples des États-Unis et de Taïwan travaillent ensemble pour promouvoir la liberté économique, la démocratie, la paix et la stabilité en Asie, a déclaré M. McCarthy en recevant la dirigeante pour un déjeuner avec plusieurs membres du Congrès dans la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan de Simi Valley, près de Los Angeles. Cette rencontre entre le troisième personnage de l'État américain avec la dirigeante taïwanaise issue d'un parti indépendantiste irrite beaucoup la Chine. L'administration Biden a minoré l'importance de cette rencontre. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a rappelé hier qu'il ne s'agissait que d'un transit et pas d'une visite officielle. En août dernier, la démocrate Nancy Pelosi, alors à la tête de la Chambre des représentants, s'était rendue à Taïwan. Cette visite avait entraîné des manœuvres militaires chinoises d'envergure autour de l'île que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire.
Et la Chine a promis ce jeudi ce qu'elle a appelé des mesures déterminées et efficaces pour sauvegarder sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères se sont entretenus ce jeudi à Pékin, une rare rencontre à ce niveau sur fond de rapprochement historique entre les deux puissances rivales du Moyen-Orient, ont rapporté les médias officiels de ces deux pays. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, qui avaient rompu leurs liens en 2016, avaient annoncé en mars le rétablissement de leurs relations diplomatiques à l'issue de pourparlers en Chine facilités par Pékin. La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
Le Rwanda et le Kenya ont signé à Kigali 9 accords de coopération à l'issue de la visite d'État du président William Ruto. 6 accords ont été signés par les ministres des Affaires étrangères sur les TIC, la santé, la jeunesse et le développement coopératif. 3 accords dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de l'égalité des sexes ont été signés par les ministres respectifs des deux pays. Au Cameroun, le gouvernement a donné 30 jours aux entreprises pour régulariser leurs employés d'origine étrangère. Le ministre de l'Emploi, Issa Chiroma Bakari, a précisé que malgré les campagnes de sensibilisation, les contrôles sur le terrain et les mises en demeure adressées aux chefs d'entreprise, ils continuent d'employer une abondante main-d'œuvre de nationalité étrangère en marge de la réglementation en vigueur. Le port de Pointe-Noire, capitale économique et pétrolière du Congo-Brazzaville, a reçu hier son tout premier bateau de croisière transportant des touristes étrangers. La ministre Lydie Pongo a accueilli le bateau, se réjouissant de cette nouvelle ère dans l'histoire du tourisme du pays.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les oppositions des quarts de finale des compétitions africaines interclubs.
Oui, la Confédération africaine de football a procédé hier mercredi au tirage au sort en Ligue des champions. Les surprenants Tanzaniens de Simba SC vont s'attaquer au redoutable Marocain du Wydad Casablanca, champion en titre. L'autre club de Casa va se frotter aux Égyptiens d'Al Ahly, qualifiés in extremis pour les quarts de finale. Les Algériens du CR Belouizdad se mesurent aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. À ne pas manquer la rencontre entre la JS Kabylie d'Algérie et l'Espérance de Tunis. Les matchs aller auront lieu les 21 et 22 avril et se retour une semaine après.
En Coupe de la Confédération, le match le plus attendu, c'est le choc entre l'USM Alger et Phare de Rabat.
Cette rencontre s'annonce palpitante en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. De leur côté, ayant fini en tête de leur groupe, les Ivoiriens de la SEC Mimosa feront face aux Tunisiens de l'US Monasti. Duel à suivre entre les Égyptiens de Pyramide FC et les Sud-Africains de Marumo Gallants, impressionnant en phase de groupe. Le dernier quart de finale mettra aux prises les Nigériens de Rivers United et les Tanzaniens de Young Africans. Les matchs allés sont prévus pour le 23 avril et se retour une semaine après.
La RDC a déposé un recours pour son match contre la Mauritanie.
C'est ce qui ressort d'un communiqué publié sur le compte Twitter de la Fédération congolaise de football. Cette plainte intervient après son match nul, un but partout contre la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2023. Les Congolais se sont beaucoup plaints de l'arbitrage, surtout du carton rouge attribué à Cédric Bakambu, après un contact supposé avec le gardien mauritanien Babacar Niass. Cette plainte intervient aussi après une autre déposée par le Bénin contre le Rwanda dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. 7 personnes ont été arrêtées après la mort suspecte d'une étudiante gabonaise dans le nord-est de la Turquie. Le corps de Jenna Danis Dina Bongo Ibuanga, 17 ans, a été retrouvé le 26 mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük où elle étudiait le génie mécanique. La mort de la jeune fille, surnommée Dina par ses amis, a suscité une vive émotion sur le campus de Karabük. Yacouba Ouedraogo a joint hier à Karabük Marc Hubert Kassa Azoumé, président de l'association des étudiants gabonais de cette ville.
Il y a une vidéo qui a circulé dans le groupe d'étudiants où on disait qu'il y a une fille noire décédée. Un proche à moi qui est venu me voir, on cherche notre sœur depuis, alors qu'elle est sortie hier, vraiment les 23h. Et donc du coup, en même temps, un membre de l'Union africaine m'a appelé pour partir au niveau de l'hôpital, au niveau de la morgue, parce que moi, en tant que président, il fallait que je vienne aussi voir si ça correspond à un membre de ma communauté. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte une fois arrivé à l'hôpital que c'était bel et bien.
Quand vous dites un membre de l'Union africaine, vous parlez bien de l'organisation en Afrique ici ou sur place en Turquie là-bas?
En Turquie et plus précisément dans la ville. Dans la ville aussi, on a une association de l'Union africaine où il y a les différents présidents de différentes villes avec quelques membres à la tête, quelques étudiants comme nous, quoi.
Est-ce que vous la connaissiez personnellement?
Personnellement, je la connaissais pas parce que ça faisait juste à peine 6 mois qu'elle était là. On est une communauté de, pour arrondir, 300-400 étudiants. On s'était retrouvés dans certains endroits ensemble, mais j'avais jamais prêté attention.
Comment cela a affecté la communauté gabonaise et au-delà la communauté universitaire dans laquelle elle étudiait?
C'était toutes les communautés africaines. Tout le monde était debout, tout le monde était affecté. Même soir où on a découvert ça, il y avait déjà en quelque sorte des petites manifestations devant la gendarmerie. Donc, hormis le fait qu'on était attristé, il y avait plus de frustration, plus de colère.
Est-ce que vous savez jusqu'ici ce de quoi elle est morte?
Les premières autopsies sont parties. C'est le pré-rapport où on disait qu'elle était morte par noyade. Et après ça, naturellement, ça a été controversé parce que nous tous, on s'est dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? L'ambassade du Gabon a demandé une grande expertise. Voilà, ce qu'ils ont répondu, c'est que voilà, les choses avancent, c'était juste un pré-rapport. Voilà, c'est pas encore l'autopsie finale.
Les autorités turques ont annoncé des arrestations. Est-ce que vous dites que justice sera rendue pour Dina, comme vous l'appeliez?
C'est 7 personnes qui ont été arrêtées, donc 4 ressortissants turcs et 3 étudiants gabonais. Ils sont allés placer en garde à vue pour raison d'enquête. Maintenant, aux dernières nouvelles, les 4 turcs ont été déférés vers le parquet. Ce sont les informations du jour qui sont rendues officielles. Mais les 3 Gabonais n'ont pas été livrés au tribunal. Ils sont toujours au niveau de la garde à vue.
Est-ce que les autorités gabonaises sur place, je vais parler par exemple du personnel diplomatique, vous a contacté?
Je suis en communication directe avec l'ambassade du Gabon en Turquie, 6 Ankara. Pour l'instant, l'État gabonais, l'ambassade, m'a communiqué de faire une liste de tous les étudiants gabonais, pas seulement à Karabük, mais dans toutes les villes de la Turquie, qui se sentent lésés, victimes de racisme, puissent écrire leur nom sur la liste. Et au moment voulu, un avion pourra les déporter et les renvoyer au Gabon. Parce que avec cette affaire-là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a l'impression que beaucoup de gens vivent le racisme, sont lésés, les conditions de vie ici ne sont pas bonnes. C'est pas mon avis. Par rapport à moi, à notre groupe, moi et l'Union africaine, qui sommes rentrés en contact avec les autorités de la ville, comme le commissaire nous a dit que par rapport à ce qui s'est passé là et par rapport aux différentes plaintes que vous avez, on va renforcer la sécurité des policiers dans la ville de Karabük, plus précisément dans le quartier où tous les étudiants se trouvent.
Hubert Kassa Azoumé, président de l'association des étudiants gabonais de Karabük en Turquie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, les ex-politico-militaires du FACT, condamnés à des peines d'emprisonnement à vie et bénéficiaires de la grâce présidentielle, ont été libérés hier matin. Une 30aine d'entre eux ont reçu leur certificat de libération au cours d'une cérémonie officielle devant la prison de Klesum, à une 20aine de kilomètres de la capitale N'Djamena. Ils étaient en prison pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno, en 2021. De N'Djamena, notre correspondant André Kotma-Djingar fait le point.
Article 1. Les membres du groupe armé dénommé FAC, condamnés pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État, bénéficient de la grâce présentielle.
Le chef de division et de gestion pénitentiaire Tabsou Hassan, lisant l'acte du président de la transition, accordant la grâce présidentielle aux 380 personnes ayant participé au combat au cours duquel le président Déby Père avait trouvé la mort en avril 2021. Une trentaine a reçu des autorités judiciaires des certificats d'acquittement, parmi lesquels Wikonga Gelmin Kemba, ex-président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il se réjouit de cette liberté et demande aux autorités judiciaires de respecter les droits des prisonniers.
Je suis comme tout autre prisonnier. Quand on recouvre la liberté, on a le sourire aux lèvres. Ça a été tellement difficile puisque nos droits ne sont pas respectés. Je voudrais ici inviter les directeurs de pénitence à respecter les droits des prisonniers.
Son épouse, venue assister à cette cérémonie, verse les larmes de joie de voir son mari en liberté.
J'ai vécu un peu difficilement, mais Dieu merci. Aujourd'hui, mon époux est libre. Je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu pour cela.
Faisant partie des prérogatives régaliennes du président de la République, il peut l'accorder à tout condamné, a déclaré au micro de VOA Afrique le ministre de la Justice, Ahmad Mahamat Alabo.
L'élaboration de la politique d'exécution des peines et mesures privatives et restrictives des libertés, ainsi que l'application des mesures de remise des peines, de grâce et d'amnistie, constituent de nouvelles visions des plus hautes autorités pour contribuer à la mise en place d'une justice impartiale, équitable et accessible à tous. Ces démarches magnanimes constituent sans nul doute un gage du rétablissement de la confiance entre les fils et filles du Tchad dans la paix sociale.
Le directeur des établissements pénitentiaires d'Ougri, Abakar Saleh Ibrahim, interpelle les bénéficiaires au respect des lois en vigueur pour ne pas retomber dans les erreurs.
La prison est un lieu de rééducation des personnes en conflit avec la loi. C'est pourquoi nous demandons aux bénéficiaires de cette grâce présidentielle d'être exemplaires au sein de la société.
Oui, Konga Gelmin Kemda, ex-président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, dit qu'il ne regrette pas avoir fini sa lutte en prison. Toutefois, il lance un appel à ses compagnons d'armes de privilégier le dialogue.
C'est des frustrations sociales qui ont fait que nous sommes arrivés à cette situation. Maintenant que nous sommes engagés pour la paix, et si nous changeons de comportement, je ne vois pas où est le problème. Aucun homme ne peut refuser la paix. Et je m'engage à lancer un appel au gouvernement tchadien à discuter sincèrement avec nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Le Sahara a avalé tellement de Tchadiens et nous ne pouvons pas continuer à nous entretuer ainsi.
Les manifestants condamnés et bénéficiaires de la grâce présidentielle retrouveront incessamment leur liberté. Les 139 autres non jugés, le ministre de la Justice informe que leurs dossiers sont déjà dans le cabinet d'un juge d'instruction et que leur situation sera également examinée avec diligence. André Kordouma-Dingar, Njamena, pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, la présidente de la Commission Vérité et Réconciliation, Marie-Edith Douzima-Lawson, dit avoir appris de manière non officielle qu'elle a été destituée par ses pairs commissaires lors d'une plénière extraordinaire mardi en son absence. Elle qualifie cette mesure d'illégale. Un procès-verbal aurait été établi ce mercredi, mais Maître Douzima n'a pas été notifié. Nathalie Barge a joint mardi soir à Bangui Madame Marie-Edith Douzima-Lawson elle-même.
Je l'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux que j'aurais été destituée par mes collègues les commissaires. Et donc, certaines personnes qui m'ont appelé, ils disent qu'ils sentent un complot dans tout ça.
Est-ce que vous savez si tous les commissaires étaient d'accord pour cette décision?
J'ai eu des commissaires pour autre chose et qui m'en ont pas parlé. Et donc, je sais qu'ils n'étaient pas là. Et puis, je sais que ces commissaires ne pouvaient pas être d'accord avec ça. Mais dans cette commission, comme on le dit, le mur en des oreilles, j'ai su qu'il y a eu cette réunion extraordinaire qui n'a pas été convoquée par moi puisque c'est moi la présidente.
Pourquoi a-t-elle été organisée sans votre présence?
Justement, il est prévu par la loi que nous nous réunissons en plénière une fois par mois. Et donc, au début de l'année, fin janvier, nous sommes réunis et nous avons dit, bon, à partir de maintenant, on va se réunir les premiers jeudis de chaque mois. J'ai fait préparer une invitation en bonne et due forme pour convoquer les commissaires à notre plénière ordinaire du mois d'avril, donc pour ce jeudi. Et puis, ben voilà, il y a eu ça. J'ai pas été, entre guillemets, convoqué à cette plénière extraordinaire. C'est pour cela que j'ai été surprise.
Est-ce que le règlement intérieur permet au commissaire de destituer la présidente?
Non, de toute façon, nous n'avons même pas encore de règlement intérieur parce qu'on a eu des difficultés d'ordre administratif et procédural pour faire valider le règlement intérieur qui prévoit ce genre de choses. La loi prévoit que notre règlement intérieur doit être validé par la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas encore fait. On attendait le décret d'application de la loi qui vient juste d'être signé à la fin de ce mois de mars. Et c'est maintenant que nous devons harmoniser notre règlement intérieur avec ce décret d'application afin de soumettre à la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas encore fait. En tout état de cause, cette procédure est illégale parce qu'il est prévu dans la loi que c'est la présidente qui doit convoquer une plénière ou la personne qui assure son intérim ou si elle délègue à un commissaire, c'est ce qui n'a pas été fait. Ensuite, lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un, ma foi, on a quand même des juristes parmi les commissaires. On entend cette personne a des voies de recours. Donc, on entend cette personne et on décide. On décide à la majorité des deux tiers. Je n'ai jamais été convoqué, je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été notifié. Et je crois qu'ils viennent là d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que tous ceux qui s'agitent, ils ont beaucoup de choses à se reprocher.
Est-ce que ça veut dire que ça va engager une bataille juridique?
Sûrement. Je suis d'une part victime de ma tolérance, d'autre part je suis victime de ma rigueur. Eh bien, j'agirai en conséquence.
Maître Marie-Edith Douzima-Lawson, présidente de la Commission Vérité et Réconciliation en République Centrafricaine. Au Cameroun, les petits entrepreneurs saisissent de plus en plus les opportunités de financement offertes par Proparco, une filiale de l'Agence française de développement. Elle a d'ailleurs présenté sa nouvelle stratégie de financement en Afrique pour les 5 prochaines années. Des projets de production et de transformation agricole sont parmi les bénéficiaires. Dans un pays où 70% du tissu économique est constitué du secteur informel, le besoin en financement est encore réel. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
René et deux de ses employés s'affairent dans un champ de poivre à Loum, localité située non loin de Douala. Pour se lancer dans cette activité agricole, René Agodio a obtenu un financement bancaire. Il emploie aujourd'hui 6 personnes à plein temps.
J'ai fait le prêt de 2 millions de pounds. C'est ça qui m'a permis de mettre le culture à long terme comme le poivre.
À Kapa, autre localité non loin de Douala, Victorine Kessé s'est investie dans la production de l'huile de palme grâce à 2 financements successifs d'une valeur de 5 millions de francs CFA.
Je fais l'activité d'huile de palme, j'ai un pressoir, j'ai aussi mes plantations où je récolte les noix et il y a aussi les clients qui viennent presser l'huile ici et ils me payent. Ils payent pour l'utilisation de la machine, du pressoir.
À 105 km de Douala, un champ d'ananas s'étend sur 5 hectares grâce à un accompagnement d'une microfinance. Il y a 5 ans, l'investisseur faisait ses premières cultures sur 1 hectare. Constante Biélé, directeur du crédit à CEP Cameroun, a accompagné ce producteur.
Au-delà de l'accompagnement proprement dit qui est apporté un souffle en capital, bien sûr le volet financier, nous essayons de l'accompagner sur le volet éducation financière. Qu'il sache quand on prend un crédit, voilà un peu comment est-ce qu'on peut se comporter pour respecter les échéances et être éligible pour être accompagné une autre fois.
Près de 2000 entreprises ont été financées entre 2019 et 2020 à travers l'initiative Choose Africa de Proparco. Dans sa nouvelle stratégie, Proparco entend consacrer 2,5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années aux pays africains. Françoise Lombard, directrice générale de Proparco.
On va avoir par exemple plus d'appétit au risque sur certains ce qu'on appelle les PME, TPE à impact. Sur les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, sur le secteur agricole et agroalimentaire, et également sur deux types de publics, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Et on va de la même manière avoir aussi un appétit au risque supérieur sur certaines géographies ou certains pays.
Pour Parco a également annoncé qu'un montant de 30 millions d'euros sera alloué aux start-up innovantes en Afrique entre 2023 et 2025. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci.